VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson, au sommaire ce 12 février 2016.
Procès Hissène Habré, l'avocat de l'ancien président tchadien, dénonce un procès fabriqué qu'il affirme être financé par Idriss Déby.
C'est quelqu'un qui fait l'objet aujourd'hui à Dakar d'une plainte pour crime contre l'humanité. Il a été convoqué à deux fois par les juges d'instruction des chambres africaines et il a refusé de venir.
Nous entendrons Maître François Serre.
J-2 pour le second tour de la présidentielle et des législatives en Centrafrique.
Toutes ces mesures ont été prises pour que les erreurs du passé soient entièrement corrigées.
Le porte-parole de l'autorité nationale des élections, Julius Rufin Ngouandé-Baba.
Darfour, l'ONU va distribuer une aide d'urgence à 23 000 déplacés qui ont fui les affrontements entre l'armée soudanaise et les rebelles.
Afrique du Sud, le discours du président Jacob Zuma sur l'état de la nation interrompu par des députés l'accusant de corruption.
Discussion de Munich, les États-Unis et la Russie se sont entendus sur un cessez-le-feu en Syrie.
Primaire aux États-Unis, Bernie Sanders et Hillary Clinton se sont vivement opposés hier lors du 6e débat démocrate.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
En Guinée, 17 militants du principal parti d'opposition, l'UFDG, ont été placés en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur la mort par balle d'un journaliste, rapporte l'AFP, citant un avocat du parti. Nos clients ont été placés en garde à vue de façon hâtive et prématurée dans une brigade de gendarmerie dans la banlieue de Conakry, a déclaré Salifou Beavogui. Ils ont été convoqués régulièrement depuis mardi et après des va-et-vient, c'est jeudi qu'on leur a signifié leur maintien en garde à vue, a ajouté Maître Beavogui. Selon lui, tous sont chargés du maintien de l'ordre à l'UFDG, dirigé par l'ex-premier ministre Sélou Dalein Diallo.
L'ONU a confirmé l'arrivée hier soir au Darfour d'un premier convoi humanitaire. Cette aide d'urgence sera distribuée aux 23 000 déplacés qui ont fui de violents affrontements entre l'armée soudanaise et une faction de l'armée de libération du Soudan. Ces derniers exigent la fin de la marginalisation économique du Darfour et leur intégration dans le gouvernement de Khartoum. Éric Manirakiza.
Les 24 camions de ce premier convoi ont acheminé de la nourriture, des fournitures médicales, ainsi que des abris pour les civils. Le convoi est arrivé hier tard dans la soirée sur la base de Sortoni de la Minouade, la mission de paix conjointe ONU-Union africaine au Darfour, déployée en 2007. 23 000 déplacés composés à 90% de femmes et d'enfants en seront les bénéficiaires. Ils ont fui les combats violents dans la région de Djebel Mara entre les forces d'Omar al-Béchir et les rebelles non-arabes dirigés par Abdel Wahid Nour. Ces déplacés ont dû marcher des kilomètres ou voyager à dos d'âne ou de chameau pour se mettre à l'abri. La plupart n'ont pas eu le temps de rassembler leur effet personnel ou de la nourriture, selon l'agence onusienne des affaires humanitaires OCHA. Depuis 2009, l'homme fort de Khartoum est visé par un mandat d'arrêt international de la CEPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. OCHA estime que ce conflit a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, année du soulèvement des rebelles non-arabes du Darfour, pour mettre fin à la marginalisation économique de leur région, mais aussi exiger un partage du pouvoir avec Khartoum, dont le gouvernement est essentiellement arabe.
En Afrique du Sud, le discours du président Jacob Zuma sur l'état de la nation a été interrompu pendant une heure hier par les députés de l'opposition radicale. Des précisions avec Michel Joseph.
Ces députés ont quitté le Parlement en scandant des slogans anti-Zuma dans le genre « Zupta doit tomber », jeu de mots en référence au lien étroit entre Jacob Zuma et les Gupta, de richissime homme d'affaires d'origine indienne, soupçonné d'avoir une influence directe sur le pouvoir sud-africain. Et Julius Malema, le soi-disant enfant terrible du parti, combattant de la liberté économique, a ignoré les rappels à l'ordre pour crier « Zuma ne mérite le respect de personne. Il nous a volé, il a corrompu l'économie de l'Afrique du Sud, il a transformé ce pays en blague. Nous ne le connaissons pas comme notre président. » Quelques heures avant le discours de M. Zuma, des échauffourées avait éclaté entre quelques centaines de partisans de Malema et la police. Une accusation d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla, du nom de la résidence privée du président sud-africain et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de deux ministres des Finances en décembre, alimentent depuis des semaines une campagne « Zuma doit tomber ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Russie se sont entendus cette nuit sur une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine afin de relancer le processus de paix et de stopper l'exode des civils. À l'issue d'intenses négociations à Munich, le groupe international de soutien à la Syrie a également décidé un accès accru et immédiat de l'aide humanitaire aux civils en détresse. Les résultats seront mesurés par ce qui se passera sur le terrain, pas sur les mots qui sont sur un bout de papier ce soir, a déclaré le chef de la diplomatie américaine John Kerry. Les États-Unis et la Russie vont piloter la mise en œuvre du cessez-le-feu, a précisé son homologue russe Sergueï Lavrov, notant qu'il s'agissait d'un premier pas vers un cessez-le-feu permanent. L'arrêt des hostilités concernera toutes les parties au conflit, à l'exception des groupes terroristes Daesh et Al-Nusra, ont précisé les ministres.
Au Venezuela, 3 personnes sont mortes de complications associées au virus Zika, annoncé hier soir le président Nicolas Maduro. Le pays a enregistré 5221 cas possibles de Zika entre le 5 novembre et le 8 février, a-t-il dit, ajoutant que 68 patients qui présentent des complications ont été placés en soins intensifs. Monsieur Maduro a remercié l'Inde, Cuba, la Chine, l'Iran et le Brésil d'avoir fourni des médicaments contre le Zika et d'autres aides médicales.
Et dans le cadre de la lutte contre la fièvre Zika, le Brésil a conclu un partenariat avec une université américaine pour la mise au point d'un vaccin dans un délai de 12 mois. Des détails avec Félix Yepassis Zembrou.
Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Castro, a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que son gouvernement entend investir 1,9 million de dollars dans un partenariat entre l'Université du Texas et l'Institut Evandro Chagas du Brésil. Par ailleurs, le Brésil a conclu un accord de coopération avec les centres américains de contre et de prévention des maladies, les CDC, et cherche à faire de même avec le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, a révélé le ministre brésilien. Le développement d'un vaccin sûr et effectif est d'une importance immédiate, a souligné de son côté le directeur des CDC, Thomas Frieden. Frieden et d'autres responsables américains de la santé qui témoignaient devant une commission sénatoriale ont expliqué que les efforts de lutte contre la fièvre Zika doivent s'orienter en grande partie sur le contrôle des moustiques vecteurs de la maladie. Le sud des États-Unis, notamment les États de Floride et du Texas, ainsi que le territoire américain de Porto Rico, abritent ce genre de moustiques, ont-ils averti.
Séoul a averti vendredi la Corée du Nord qu'elle avait agi de manière illégale en gelant les avoirs sud-coréens dans la zone industrielle intercoréenne de Kaesong. Pyongyang a annoncé hier qu'elle fermait entièrement cette zone située sur son territoire et la plaçait sous contrôle militaire en riposte à la décision unilatérale de Séoul d'y suspendre les opérations. Tous les sud-coréens qui se trouvaient à Kaesong ont été expulsés. Le ministre sud-coréen de l'unification, Hong Yong-pyo, a qualifié la décision de Pyongyang de très regrettable, ajoutant que la Corée du Nord devrait en assumer toutes les conséquences. 124 entreprises sud-coréennes employaient 53 000 nord-coréens à Kaesong.
Et primaire présidentielle ici aux États-Unis, le sénateur Bernie Sanders et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, qui sont dans une course serrée à l'investiture démocrate, se sont vivement opposés sur plusieurs points dans un nouveau débat télévisé hier. Deux jours après sa déroute dans le New Hampshire, Mme Clinton a tenté de reprendre l'avantage sur son rival. « Nous ne devrions pas faire de promesses que nous ne pouvons pas tenir », a lancé Hillary Clinton lors de l'émission produite par la chaîne PBS à Milwaukee. Madame Clinton a arraché péniblement une première place dans l'Iowa à 0,3 points de pourcentage près et qui n'a obtenu que 38% des voix dans le second scrutin contre 60% pour Monsieur Sanders et qui trouve un très fort écho, notamment chez les jeunes et les femmes.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Arzuma Compaoré.
102 milliards de francs CFA pour assurer l'insertion économique des jeunes au Cameroun. C'est la promesse faite par le président camerounais à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse. Selon Paul Biya, chaque génération doit relever ses propres défis historiques afin de construire le Cameroun. Il a insisté sur le besoin de développer l'économie numérique. Le président Biya a également promis la mise en place prochaine d'un plan triennal spécial jeune. Au Sénégal, relance de l'industrie chimique après un ralentissement de 2 ans. La production de phosphate en rythme annuel est passée de 750 000 tonnes en 2014 à 1 060 000 tonnes en décembre 2015, selon des chiffres fournis par le ministère des Mines et de l'Industrie. La production de phosphate a été revitalisée avec l'arrivée en 2014 de la société Indorama en remplacement de l'indienne Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. Indorama, qui a injecté 37 millions de dollars dans l'opération, a acquis 70% du capital d'ICS, les industries chimiques du Sénégal. Pour le ministère des Mines et de l'Industrie, l'objectif est d'arriver à assurer 1 800 000 tonnes de minerais en 2016. L'Afrique du Sud veut désormais interdire la possession des terres agricoles aux étrangers. C'est ce qu'a annoncé le président Jacob Zuma jeudi dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Cap. Il a affirmé que le projet de loi serait présenté devant le gouvernement au cours du premier semestre de cette année. Le débat sur la réforme agraire est l'un des points essentiels du débat sur la compensation des inégalités créées par l'apartheid qui avait interdit aux Noirs de posséder des terres.
Merci Arzuma pour cette page économie. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. En football, direction l'Afrique, on connaît déjà le calendrier de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération.
Oui, les tours préliminaires à l'aide des deux compétitions démarrent aujourd'hui et vont continuer jusque dimanche. Tous les matchs sont programmés en 20 rendez-vous. La finale est prévue le 23 juin pour la Ligue des Champions, tandis que celle de la Coupe de la Confédération se jouera le 6 novembre.
La Coupe du Roi d'Espagne, Séville rejoint le FC Barcelone en finale.
Le Séville FC s'est logiquement qualifié hier pour la finale de la Coupe du Roi. Il devra faire face à l'armada barcelonaise composée de son trio magique MCN, Messi, Suarez, Neymar. Et comme tu le sais, Nathalie, Barcelone est le tenant du trophée.
Présidence de la FIFA, le tour du monde des candidats s'achève par l'Amérique.
Exactement, Nathalie, c'est l'Amérique pour finir. Ils ont été reçus hier et seront également reçus aujourd'hui à Miami par la CONCACAF, Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, qui devrait décider dans la foulée de soutenir l'un d'entre eux. La CONCACAF est elle-même au cœur du retentissant scandale qui a plongé la FIFA dans une crise sans précédent. Mais déjà, le prince Ali dénonce la tactique de ses rivaux qui s'activent à s'assurer des votes avec le soutien des confédérations.
Espagne, le vice-président de l'Union des associations de football européen menacé d'une procédure disciplinaire.
En réel, Maria Villar est visée par l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour sa gestion de la fédération espagnol de football. Le Conseil supérieur des sports a transmis au tribunal administratif du sport espagnol un rapport mettant en lumière un possible traitement de faveur de la fédération envers le club andalou.
Volleyball, les Camerounaises visent une qualification olympique inédite.
Le tournoi de qualification olympique des volleyeuses africaines débute aujourd'hui à Yaoundé et prendra fin le 19 février. Une opportunité pour les Camerounaises de signer leur première participation aux JO à l'instar des Camerounais.
Athlétisme. Deux athlètes ont accusé le directeur général de la Fédération kényane de corruption.
Tout à fait, Nathalie. Les deux athlètes ont dit que ce responsable de leur fédération leur a demandé un pot de vin pour atténuer la durée de leur suspension pour dopage. L'Agence mondiale antidopage s'est dite extrêmement troublée par les révélations. Et avec toi, Nathalie, les résultats et classements du championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Oklahoma City a dominé la Nouvelle-Orléans 121 à 95 hier soir. Dernier match avant la traditionnelle pause de 6 jours à l'occasion du All-Star Game. L'autre match au programme a vu Milwaukee venir à bout de Washington 99 à 92. Le championnat NBA fait relâche jusqu'à jeudi prochain alors que les meilleurs joueurs convergent vers Toronto où a lieu dimanche le All-Star Game, match de gala entre les conférences Est et Ouest.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. C'est à minuit que s'achève en Centrafrique la campagne électorale pour le second tour des législatives et de la présidentielle prévue le 14 février. Les Centrafricains devront faire leur choix entre Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra lors du scrutin présidentiel dimanche. Pour savoir si les conditions sont réunies pour que les différents scrutins se déroulent de manière équitable et transparente, Pascaline Magalé a joint le porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Julius Ruffin Ngouandé-Baba.
Nous avons pris toutes les précautions, tout le matériel a été déployé et les bulletins aussi sont déjà au niveau des centres de vote. Donc pour nous, tout est prêt pour que le scrutin de dimanche se tienne dans de bonnes conditions.
Quelle leçon l'Autorité nationale des élections en Centrafrique a-t-elle tirée du premier tour des scrutins ?
Vous savez, il y a beaucoup de préoccupations qui ont été émises non seulement par les candidats, mais par ceux des électeurs, et aussi la Cour constitutionnelle qui, dans sa décision, a fait plusieurs observations. Et l'ANE a tenu compte de toutes ces observations, donc nous avons travaillé d'arrache-pied pour corriger toutes les imperfections sur les bulletins, les quantités de bulletins dans les bureaux de vote, le niveau de formation des membres des bureaux de vote pour qu'ils puissent mieux remplir les documents électoraux que par le passé, les dispositifs pour assurer l'accès des représentants des candidats dans les bureaux de vote et d'autres mesures encore pour garantir donc la quiétude et la sérénité du scrutin. Donc toutes ces mesures ont été prises pour que les erreurs du passé soient entièrement corrigées.
Certains candidats aux législatives se sont retirés à la dernière minute. Est-ce qu'il y a eu des mesures par rapport à cela ?
Il n'y a pas de mesures particulières. Se retirer de la compétition, ça relève de la liberté de se porter candidat, de la liberté aussi de se retirer. Nous, à l'ANE, nous nous sommes réunis en assemblée plénière, nous avons pris acte de ces désistements et nous avons informé le public de ce que un certain nombre de personnes ont décidé de se retirer de ces élections-là. Seulement, ces correspondances nous sont parvenues alors que nous avions déjà élaboré les bulletins de vote, les maquettes ont été confectionnées et les commandes même ont été déjà passées. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans les bureaux de vote, le dimanche 14, vous constaterez que ces candidats, bien qu'ils aient désisté, ils figurent toujours sur les bulletins de vote. Nous, il ne nous restait plus qu'à informer le public, à informer les électeurs pour que le dimanche, ils verront sur qui d'autres porter leur choix.
C'était le porte-parole de l'Autorité nationale des élections de Centrafrique, Julius Ruffin Ngouandé-Baba.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Sénégal, le procureur du tribunal spécial africain a requis la prison à perpétuité pour l'ancien président tchadien Hissène Habré. Bakéfal a réclamé une condamnation qui, selon lui, est à la hauteur des crimes. Les plaidoiries doivent se terminer aujourd'hui. Idriss Fall a recueilli la réaction de maître François Serre, avocat d'Hissène Habré à Dakar.
La défense du président Habré a toujours clamé que c'était un procès inéquitable. On a prétendu créer une juridiction internationale qui viole tous les standards internationaux. On n'a pas appliqué un règlement de procédure internationale qui permettait aux avocats de la défense d'aller faire des enquêtes, par exemple au Tchad, comme ça s'est passé dans l'affaire Gbagbo devant la CPI, où les avocats du président Gbagbo sont allés en Côte d'Ivoire. Ma sécurité personnelle était en fait menacée au Tchad. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une enquête qui a été totalement manipulée par les ONG, notamment Human Rights Watch. En plus, on a pu constater qu'il y avait eu des éléments qui ont corrompu le procès, puisque les juges d'instruction ont reçu des sommes d'argent de la part du régime du président Déby, ce qui normalement suffirait aux États-Unis à arrêter un procès. Le président Déby a contrôlé ce procès puisqu'il en a été le financier. Il a contrôlé ce procès en refusant d'envoyer à Dakar, devant les chambres africaines, l'ensemble des co-auteurs. Puisqu'on parle de crimes contre l'humanité et de torture, il y a des gens qui normalement auraient dû être entendus pour être les auteurs directs de ces tortures. voiture et qui aurait pu être confronté avec ses prétendues victimes.
Idriss Déby, il était le chef de la police de Hissène Habré.
Alors Idriss Déby, il a d'abord été le chef d'état-major, donc il a des responsabilités, notamment sur le terrain, qui sont apparues très clairement dans le procès. C'est quelqu'un qui fait l'objet aujourd'hui à Dakar d'une plainte pour crime contre l'humanité. Il a été convoqué à deux fois par les juges d'instruction des chambres africaines et il a refusé de venir. La réalité, c'est que Idriss Déby a manipulé l'enquête parce qu'il est le financier des juges. Il a manipulé en quelque sorte tous les gens qui ont été entendus à N'Djamena. Pourquoi ? Parce que le procès à Dakar a révélé que tous les témoins qui, eux, sont venus à Dakar, leur déclaration avait été fabriquée à N'Djamena. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5 personnes sur une trentaine de témoins qui ont reconnu que les déclarations qu'on leur prêtait à N'Djamena, ils n'avaient pas signé leur procès-verbaux. Leur procès-verbaux versé au dossier, signé, alors que devant les chambres, ils ont dit « Mais nous, on n'a jamais vu la police, on n'a jamais vu les juges. » Comme on a aussi des faux fichiers dont les experts ont reconnu qu'ils avaient fait l'objet de ratures et d'ajouts postérieurement à la chute du régime. Tout ça pour construire la culpabilité du président Habré et de façon directe. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, Eric Brody, avant même que les chambres soient créées, a réalisé qu'il n'y avait pas de responsabilité directe, qu'il n'y avait pas de lien de rattachement entre les faits et la personnalité du président Habré. Ce qui fait qu'on a vu toute une cohorte de femmes amenés par les ONG devant les chambres africaines qui ont raconté des histoires qui se sont avérées totalement fausses, des faits d'égorgement, des viols, qui n'avaient jamais été évoqués depuis 20 ans qu'on connaît cette procédure. Donc on a un procès totalement fabriqué. Malheureusement, ce grand procès africain jugé par les Africains s'avère une véritable farce judiciaire qui ne va pas grandir la justice africaine.
C'était Maître François Serre, avocat d'Hissène Habré à Dakar. Revenons sur la conférence de presse des ressortissants de la région du lac Tchad hier à N'Djamena, initiée par Fest Africa Magazine en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. Cette rencontre a lancé l'opération Coup de cœur en faveur des populations victimes des atrocités commises par le groupe armé Boko Haram. Voici un reportage d'André Kodmajingar.
Pour une fois, les fils et les filles du lac s'unissent pour une cause commune, celle de lancer une opération coup de cœur en faveur des populations du lac victimes de la barbarie de Boko Haram. Suite à ces exactions perpétrées contre cette population, l'État tchadien a fait déplacer plus de 14 000 personnes vivant sur les îles pour des mesures de sécurité. Comble de malheur, ce déplacement joue négativement sur les activités socio-économiques et éducatives et fait planer la famine sur la région du lac. Thierry Maina est le député de la région.
Non seulement les personnes, même les bétails, n'ont pas supporté ce déplacement. La preuve, c'est que beaucoup de cheptels ont commencé à mourir. Certains sont répartis même dans les îles sans leurs propriétaires. Alors, nous avons recommandé au gouvernement de tout faire pour ramener ces paisibles citoyens dans leur lieu d'origine. Parce qu'on ne peut ne pas déplacer les populations, mais assurer la sécurité. Des gens, il y a de cela 20 ans, 30 ans, qui étaient dans les îles, qui sont revenus sur la terre ferme, ils ne peuvent pas pratiquer. Aujourd'hui, le sac de céréales est plus cher au lac N'Djamena. Par le passé, c'est le lac qui alimentait la capitale N'Djamena en céréales.
En attendant la relocalisation de ces déplacés, la rencontre de ce jeudi avec la presse tient lieu d'une annonce de l'opération Coup de cœur prévue pour le 28 février prochain qui verra la participation des artistes tchadiens afin de mobiliser les fonds pour soulager un tant soit peu cette frange de la population vulnérable. Dans un ton de désespoir, Yakoura Malem lance un appel aux personnes de bonne volonté en ce terme.
Là où l'homme est là, il y a la femme. Et à côté de la femme, il y a une petite vie qui est dans le chiffon, peut-être sous le moustiquaire, sous le hut, sous le petit hangar. Mais quand les parents sont démunis et ne savent où mettre la tête, c'est la mort à petit feu. J'en appelle à une action citoyenne. Il y a des déplacés à Gorée, aujourd'hui au lac. Qui sait demain ? Je ne le souhaite pas. Mais ce qui arrive à ton prochain peut aussi t'arriver.
Pour le consultant du Fonds des Nations Unies pour la Population, Professeur Babacar Fall, il est urgent d'agir pour le bien-être de ces populations vulnérables.
Plus de 14 000 personnes de différentes catégories qui sont obligées de vivre dans des campements, dans les conditions de froid et bientôt avec le vent, la chaleur et dans quelques mois la pluie. Vous pouvez imaginer les conditions véritablement inhumaines auxquelles ces populations se trouvent confrontées.
André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Depuis novembre dernier au Burundi, 31 personnes sont mortes emportées par les crues ou à la suite d'effondrements des maisons. 56 personnes ont été blessées et plus de 1000 maisons et 33 écoles ont été détruites. Pour le ministère de l'Environnement, ces catastrophes sont liées au changement climatique et des mesures urgentes doivent être prises. Voici un reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Quand l'on se dirige vers le centre et le sud du Burundi, si la verdure est verdoyante, l'on assiste aussi à de nombreuses montagnes et collines qui sont dénudées. Des maisons ont été emportées depuis le début de la saison des pluies et les glissements de terrain sont remarqués dans différentes localités de l'intérieur et de la capitale. Les dégâts humains depuis cette période dépassent la trentaine d'après les autorités du ministère de l'Environnement et des dizaines de personnes ont été blessées. Le chef de département de gestion des catastrophes à la Croix-Rouge burundaise affirme que des milliers d'hectares ont été touchés par ces changements climatiques. Vénérant Zigama Savo, chef du département gestion des catastrophes à la Croix-Rouge du Burundi.
Selon les statistiques, on a retenu 6906 hectares de champs et de cultures détruits. Les ménages ont été les plus affectés sont les ménages de la partie de Bujumbura, Joël Rumongue. Là, les dernières pluies ont occasionné à peu près 550 ménages sans abri dans la province de Gitega qui nécessitent une assistance. Mais pour le moment, nous avons déjà apporté une assistance en termes d'abri temporaire à 135 ménages à Tchachi, mais aussi 141 ménages qui sont logés dans des tentes le long du lac, auxquels nous assistons en termes de vivre et de non-vivre en partenariat avec les acteurs humanitaires qui sont membres de la plateforme. Mais aussi, il y a d'autres commodités sanitaires en termes de construction de douches, de latrines, les différents axes d'intervention et l'assistance humanitaire aux ménages affectés.
Des actions importantes vont être menées par le ministère de l'Environnement pour permettre un reboisement des collines du pays. Bernadette Akizimana, conseillère au ministère de l'Environnement.
Nous comptons réhabiliter les boisements déjà dégradés et boiser les espaces dénudés par 4000 hectares par an. Une contribution, je dirais, inconditionnelle. Mais si nous optons un appui de partenaires, nous sommes engagés à faire un reboisement de 8000 hectares par an. À partir de 2016 jusqu'en 2030, le Burundi s'est engagé à réduire progressivement les engrais chimiques en les remplaçant par les engrais organiques parce que cette acidité dégrade davantage le sol et devient un facteur favorisant de ce changement climatique.
Depuis plusieurs années, le Burundi est confronté au phénomène El Nino qui cause désolation et pleurs. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans un nouveau rapport, l'ONU estime que le changement climatique et le phénomène El Niño ont eu une forte influence sur les catastrophes naturelles en 2015. Ces extrêmes, selon ce document, ont à la fois affecté le nombre et l'intensité des sécheresses, inondations et autres catastrophes liées au climat dans le monde entier. Des précisions avec Jacques Aristide.
Le Bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes a enregistré 32 sécheresses de grande ampleur au cours de l'année écoulée. Un nombre qui représente plus que le double de la moyenne annuelle sur cette dernière décennie. L'impact a été particulièrement grave en Afrique subsaharienne. Pour le Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes, CRED, dont le siège est en Belgique, 2015 a été l'année de la sécheresse. C'est du moins ce qu'indiquent les données compilées par le CRED sur les tremblements de terre, sécheresses, inondations, cyclones et autres catastrophes naturelles mondiales. Debarati Guhasapir est directrice du CRED.
Plus de 50 millions de personnes sont désormais touchées. Cela va empirer en 2016. Nous allons faire face à une catastrophe humanitaire dans le courant de cette année et il y aura des flux migratoires.
L'une des années les plus désastreuses sur le plan climatique en Afrique a été 2011, lorsqu'une grave sécheresse avait sévi dans la Corne de l'Afrique. Une période de manque d'eau qui avait alors provoqué le déplacement de 12 millions de personnes et tué 260 000 autres en Somalie. Les sécheresses sont les catastrophes dont l'impact dure le plus longtemps sur le développement humain, d'après Guhasapir.
La sécheresse conduit à la malnutrition sévère chez les enfants en bas âge et la malnutrition sévère est la cause de décès chez ces enfants dans une période de 4 à 6 semaines.
Guha Sapir affirme qu'il y avait des signes avant-coureurs de la catastrophe de 2011. Mais les gouvernements, dit-elle, n'y ont pas porté attention. Un scénario que les pouvoirs publics ne devraient pas répéter, suggère la directrice du CRED, qui ajoute qu'il ne faudra plus attendre que les Nations Unies déclarent une situation de famine pour agir. Car, conclut Guha Sapir, une fois la famine déclarée, il pourrait être trop tard pour éviter une catastrophe.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson et avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Très bon week-end à toutes et à tous.